projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
On fait ça pour la nature, on prend, on utilise, on jette. On fait ça aussi finalement pour le corps des femmes et puis pour plein d'autres personnes dans la société qui sont précaires, vulnérables.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La traverse des résidences pour la résilience, mini-Ausance, épisode 1. Des résidences pour la résilience est une série audio en immersion produite et réalisée par La Traverse. Le but ? Rendre compte pendant un an de notre travail d'accompagnement de trois territoires du Poitou. Avec l'engagement et la volonté des forces vives, nous tentons de développer des dynamiques de transition qui répondent aux besoins du territoire. Un bénévole associatif, une habitante, un commerçant, une entrepreneuse, un élu, toutes et tous prennent le micro pour raconter leur territoire. On commence par poser nos valises à Migné-Ausance, une ville de 6000 habitants en périphérie de Poitiers. Depuis quelques mois s'y déploie le projet Page Blanche, qui vise à accélérer la transition écologique de la commune. Ce projet est porté par un groupe d'habitants, d'élus et de responsables associatifs motivés. L'objectif final est de trouver des actions à mettre en place pour adapter la commune au changement climatique et diminuer sa participation à ce phénomène. On cherche donc à y inventer des manières de vivre en produisant moins de gaz à effet de serre. Pour parler de transition écologique, l'échelle d'une commune est intéressante, car le mode de vie des habitants au quotidien est déterminé par leur environnement direct. Où faire ses courses, comment se déplacer, à quel point chauffer son logement, ce sont des décisions individuelles mais grandement influencées par le cadre environnant, le territoire sur lequel on vit. Il est donc important d'y réfléchir collectivement. Commençons donc par écouter des personnes qui nous présentent la commune. Alors, Migné-Ausance, c'est quoi ? Quelles sont ses caractéristiques ? Qu'est-ce qu'on y aime et qu'on n'y aime pas ?
Alors la commune, sur le plan géographique, c'est une commune qui fait un petit peu moins de 30 km².
Florence Jardin, maire de Migné-Ausance.
Qui est déjà assez important hein, en termes de surface, mais qui est tout en long, un petit peu, avec l'habitat qui longe l'Ausance. Enfin, on le voit d'ailleurs sur la carte que vous regardiez tout à l'heure. Et une difficulté de passer d'un point à l'autre de la commune, à la fois par la rivière, à la fois par des grands axes, comme la route nationale 147-149, l'autoroute, la LGV. Donc c'est une commune qui est un petit peu contrainte aussi par tous ces axes de transport, qui est très rurale finalement, puisque près de 80% du territoire, c'est de l'agricole. Et en même temps, on est très urbain parce qu'on touche immédiatement la ville-centre et qu'on a un nombre de services à la population qui est assez important, surtout pour une commune de notre taille, hein, 6000 habitants, avec une zone d'activité économique commerciale pour le moment et une zone d'activité économique en plein développement. Et la difficulté de trouver l'équilibre entre tout ça, de préserver les espaces, d'avoir l'habitat pour que les gens puissent travailler à proximité de leur domicile et limiter les déplacements. Donc on est dans toutes ces contradictions de où trouver les espaces pour chaque chose, quoi.
Nous, en fait, on a les avantages et les inconvénients d'être en proximité de Poitiers.
Frédéric Rousseau, habitante de Migné-Ausance.
Parce que quand on voit Neuville, ils ont plein de choses à Neuville. Nous, comme c'est bien parce qu'on est proche de Poitiers, mais du coup, on n'a pas de commerce réellement dans le centre. Alors si, en périphérie, là, on a... Mais parce que c'est les gens de passage. Et encore, je trouve que, il y a des... Là, l'artisserie qui s'est montée, ça fonctionne, c'est génial, hein, je trouve.
Qui a changé la donne, c'est les axes routiers de restructuration.
Daniel Join, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Migné-Ausance.
La déviation et le rond-point qui sort sur la commune, au sud de la commune, on voit aujourd'hui tous les commerces, enfin toute l'attractivité commerciale, elle draine par rapport à un échange routier de grands flux. très vite, la boulangerie qui est sur le bord, les gens qui passent sur la rocade le matin, entre 7h et 8h30, c'est un balai incessant de camions, de camionnettes de chantier qui viennent chercher les viennoiseries, qui viennent, voilà, prendre le café. Notre enjeu majeur en urbanisme, pour nous, ce serait recentrons l'urbanisation habitat pour le besoin que l'on a. On n'est pas dans la course au développement de la population, on n'est pas dans cet esprit-là. On est dans l'esprit de dire, essayons de bien vivre à mi-osance, mais de continuer à vivre. Et pour continuer à vivre dans une commune, il faut garder une dynamique. Et la dynamique, il faut garder des populations. Et quand la population baisse, c'est un très mauvais signe pour les collectivités. Et maintenir la population d'une collectivité aujourd'hui, avec le desserrement des ménages naturels, fait qu'il faut construire des logements nouveaux. Rien que pour maintenir sa population.
Alors déjà, c'est une commune de la périphérie de Poitiers.
Anne Maury, présidente de l'Association de défense de l'environnement de Migné-Auzance, l'ADEMA.
Et en tant que commune périphérique, ça pose des problèmes particuliers. Alors d'un côté, elle a encore des caractéristiques villageoises. Il y a un centre-bourg historique qui date globalement, on va dire, du 19e siècle, qui est fait de petites rues, de venelles, où il fait bon se promener et qui a un caractère patrimonial qui, à mon avis, à notre avis, doit être respecté. Alors, ce caractère villageois, jusqu'à présent, il a été globalement préservé, mais il peut être menacé. Entre autres, il est menacé par la circulation automobile. Deuxièmement, c'est un village le caractère reste encore un peu villageois, donc j'emploie ce terme à dessein, qui dispose d'un patrimoine naturel important et que nous tenons absolument à sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce patrimoine? Il y a la rivière, déjà, qui traverse Migné-Auzance d'ouest en est, et qui définit vraiment l'agglomération, puisque c'est une suite de hameaux le long de la rivière, depuis Moulinet jusqu'à Grandpont.
En fait, ce qui est pas mal sur Migné, même avec cette carte-là, c'est que il y a plein de sites un petit peu alternatifs.
Fabien Blaise, chargé de mission à l'établissement public territorial du bassin de la Vienne, responsable de l'antenne de Poitiers et habitant de Migné.
Il y a la regratterie, il y a du recyclage, il y a le 40 mars aussi, l'association du 40 mars, pour qui essaie de créer du lien, de la proximité. Du coup, il y a le potager de Sigon aussi, nous on y va régulièrement. En tant qu'habitant, toutes ces initiatives, toutes ces démarches, c'est intéressant que si elles pouvaient être démultipliées, si on pouvait avoir plus de liens au sein de la commune au travers en s'appuyant aussi sur ces lieux-là, sur ces associations, je trouverais ça intéressant
On a donc un territoire entre ville et campagne très marqué par sa position périurbaine, avec des infrastructures nombreuses et une tendance des commerces à s'éloigner du centre-bourg. La commune se caractérise aussi par un riche patrimoine naturel où la rivière Auzance joue un rôle structurant et une vie associative foisonnante. Comme partout, c'est aussi un territoire qui subit le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mais alors, quelles sont les traductions locales, actuelles et à venir de ces phénomènes ?
Alors ce qu'on a forcément en tête, on parle souvent de réchauffement climatique, donc il y a une augmentation des températures, mais ce n'est pas le seul paramètre.
Thomas Honoré, responsable du pôle prospective climat au Grand Poitiers, en charge du plan climat air énergie et habitant de Migné.
On sait aussi que le régime des précipitations va être perturbé Donc les projections du GIEC sont globales, mais on peut aussi localiser certaines choses. On avait essayé de faire l'exercice sur Grand Poitiers il y a quelques années. Et donc ce qu'on observait, c'était peut-être une raréfaction des pluies en été, donc plus de sécheresse. Et puis au contraire, et notamment plutôt en hiver, une augmentation des événements extrêmes, donc potentiellement une augmentation du risque d'inondation. Et c'est vrai qu'au niveau local, voilà, on sait qu'on a des rivières qui sont sujettes aux crues. Et donc, ça veut dire que c'est un risque qui potentiellement va s'aggraver dans les années à venir. Et puis ensuite, ces éléments, température, précipitation, ça a des impacts divers. On pense bien sûr à l'agriculture. Certaines productions, on aurait peut-être intérêt à faire évoluer certaines productions au niveau local, parce qu'elles vont peut-être être de moins en moins adaptées au climat. Ça peut mettre en difficulté les agriculteurs qui dépendent de cette production. On peut parler d'impact sur la biodiversité aussi, puisque le changement est très rapide à l'échelle biologique pour que les espèces puissent s'adapter. Donc ça participe, c'est pas le seul facteur, mais ça participe à l'extinction massive des espèces animales et végétales qu'on observe aujourd'hui. Il y a aussi des effets sur la santé. Alors bien sûr, on pense aux canicules. On peut penser aussi à certaines maladies, par exemple, qui peuvent être transmises par des vecteurs comme le moustique. On observe certaines espèces qui vont avoir tendance à remonter vers le nord, par exemple, et peut-être certaines maladies qu'on ne connaît pas aujourd'hui localement, qui vont progressivement pouvoir nous toucher. Donc ça veut dire que derrière, il y a un impact aussi sur la santé humaine. La raréfaction des ressources, c'est forcément un enjeu, alors qui concerne plus le niveau mondial, on va dire, parce que les énergies fossiles, elles sont pas forcément produites sur notre territoire. Mais c'est forcément un argument supplémentaire pour aller vers une transition énergétique, parce que au-delà de la question du changement climatique, on sait de toute façon que les énergies fossiles se raréfient. Alors on va peut-être pas manquer tout de suite d'essence à la pompe, mais en tout cas ça risque de se ressentir, et en fait ça se ressent déjà sur le prix des énergies. Donc ça veut dire que commencer dès maintenant à faire cette transition énergétique, c'est aussi un moyen d'être moins vulnérable finalement aux fluctuations et à l'augmentation du coût des énergies.
Il faut donc collectivement changer nos modes de vie et d'organisation au quotidien pour s'adapter aux chocs à venir. Peut-être qu'un saut dans le passé, à une époque où nous ne disposions pas de l'abondance énergétique d'aujourd'hui, peut nous inspirer pour l'avenir. Cela peut aussi nous permettre de comprendre comment nous sommes arrivés à la situation actuelle. Comment vivait-on à Migné-aux-Anses il y a 100 ans? Qui produisait-on? Quelles activités s'y développaient? Sur quelles sources d'énergie pouvait-on compter? Plusieurs personnes âgées et plusieurs férus d'histoire nous ont raconté cela.
Je vous ai dit tout à l'heure, en 1945, il y avait 20 fermes.
Monsieur Petit, habitant de l'Ambre.
Et il n'y avait que ça. On était une exception. En tant que résident secondaire à l'Ambre, ce n'était pas courant. Bon. Ensuite, au fil des années, il y a eu des habitants de Poitiers qui ont acheté justement ces fermes qui fermaient au fur et à mesure, parce que les gens qui avaient ces petites fermes ne pouvaient pas vivre. Leurs enfants ont fait autre chose. Il n'y avait pas d'héritage possible, on ne pouvait pas vivre avec ça. C'était parce que c'était la survie, faut pas, même en 45, c'était de la survie. La plupart avaient une survie ici, parce que les fermes étaient toutes petites, ils avaient quelques hectares de terre, c'est tout. Multiculture, on parle du blé qui était la partie la plus importante, mais ils cultivaient tous de tout. Des pommes de terre, des haricots blancs, il reste donc quelques fermes, et ça s'est passé dans les années 70. Tout le reste, toutes les fermes ont été vendues progressivement à des citadins, à des pots de vin essentiellement. Dans un premier temps, c'était des résidences secondaires, les gens habitaient encore en ville. Et puis avec le développement des transports, la facilité, c'est devenu la résidence principale. En 1945 et jusqu'au deuxième remembrement, je pense que c'est 1975. À ce moment-là, le nombre d'agriculteurs est passé donc de 20 à 4 ou 5, pour être réduit maintenant à 2 ou 3.
Si, c'est un lieu qui était très vivant. Il y a eu une époque, alors moi je suis arrivé relativement tard, où déjà une épicerie avait disparu.
Daniel Join.
La PMR, c'était une épicerie. Il y avait une école à l'origine, au départ, tout départ c'était une école. Après, il y avait quand même le local, le bar tabac qui lui tournait très bien, qu'il y avait une activité forte. Il y avait une boucherie à l'angle du petit chemin de balade qui débarre. Donc il y avait vraiment une activité commerciale ici. Et il y avait une autre activité commerciale forte sur tout l'axe, l'axe principal, sur les bords de rue, en bas de la vallée. Là, il y avait aussi quincaillerie, épicerie, boucherie, boulangerie. Tout ça existait sur l'axe principal de la rue de Poitiers, rue de Saumur. Voilà.
Mais si vous voulez, les lieux de rencontre, c'était ça. Ils venaient faire leurs courses, ils se retrouvaient là.
Anne-Marie Létang, habitante de Migné-Auzance.
La place a été plus désertée encore, même il y a deux, trois ou quatre ans, quand le bar est parti. Maintenant, si vous voulez, tout est rendu dans le haut de Migné. Il n'y a plus rien ici à proximité.
Ainsi, la vie s'organisait à l'échelle de Migné, voire au sein de chacun des villages qui composent la ville. Les commerces y étaient aussi plus nombreux et étaient des lieux de rencontre.
Il y a eu de grosses différences entre, évidemment, la commune qui était une petite commune, j'allais dire, rurale.
Jean-Luc Carré, président de Migné-Auzance Mémoire.
Situé près d'une grande agglomération, maintenant la commune est complètement intégrée à l'agglomération de Poitiers, mais longtemps cette commune était complètement isolée. Elle faisait partie des milliers de petites communes rurales. Alors tout d'abord, c'était une petite commune rurale, comme je l'ai dit, à 7 km, mais vraiment avec une vie d'un petit village. On se serait situé à 40 km de Poitiers, je pense que la vie devait être exactement la même. Il n'y avait que très très peu d'échanges en fait entre Poitiers et Migné, Migné et Poitiers. Alors dans cette petite commune rurale, il y avait deux activités essentielles. Deux activités qui étaient donc l'agriculture et l'extraction de la pierre calcaire dont on parlait tout à l'heure. Extraction de la pierre calcaire, tout simplement parce qu'il y a toujours eu ici une carrière qui, au départ, était une carrière à ciel ouvert, hein, qui se situe sur le site qu'on appelle les Lourdines. Alors, Lourdines, c'est une allitération du mot d'un nom gallo-romain qui signifiait lieu de carrière, et donc qui se situe donc à la limite de la commune. Et cette carrière à ciel ouvert a été utilisé de tout temps, puisque dès le Moyen-Âge, on y extrayait une pierre calcaire qui était relativement facile à découper et relativement facile à transporter, puisqu'on retrouve cette pierre depuis la gare d'Orsay à Paris, qui est maintenant le musée d'Orsay, jusqu'à Biarritz. Et même encore aujourd'hui, la pierre continue à être utilisée par les monuments historiques, beaucoup. Donc c'était une petite industrie. Et l'autre industrie principale sur Migné, c'était l'agriculture et en particulier la vigne. La vigne, c'est pour ça que vous avez dans beaucoup de quartiers ici, si vous connaissez un petit peu Migné, des quartiers qui ont des noms rappelant cette production de vin. Il y avait à peu près 300 hectares de vigne quand même sur la commune, ce qui est quand même relativement conséquent. Et malheureusement, eh bien, tout a disparu en 1870 avec l'apparition de ce phylloxéra. ça a détruit complètement le vignoble, hein, complètement, mais pas uniquement sur Migné, hein, sur la France entière. En 1881, Migné, il y avait 3000 habitants. 1881, c'était juste après le phylloxéra, qui est apparu à Migné en 1878. Il y avait 3000 habitants. Et en 1931, 1800 habitants. Donc on a perdu 1200 habitants en l'espace de, vous voyez, 50 ans.
Avant, ce qui était bien, enfin moi j'aimais dans notre environnement, qui a totalement disparu, c'est justement, il y avait des vignes, il n'y a plus de vignes.
Patrice Abonneau, présidente de l'association de chasse de Migné aux Anses.
Ça serait bien que certains agriculteurs en plantent à droite. Mais dans ces vignes, qu'est-ce qu'il y avait? Dans ces vignes, il y avait des noyers. Tout le monde avait ses noyers. Il y avait des pêchers, il y avait des pruniers. Et tout ça, ça faisait partie de la biodiversité. Quand les vignes ont disparu, ah ben, il faut enlever le noyer. Des beaux noyers, moi ça m'a fait mal au cœur. Le noyer qui est grand comme ça, c'est un petit noyer, mais il y avait des fois des beaux noyers où ça faisait de l'ombre dans la plaine, ça faisait dans le paysage, c'était joli. Tout ça, ça a disparu. Moi, ils étaient plantés à l'époque, ils avaient dû planter comme ça, mais ils servaient à quelque chose, parce que quand on faisait les vendanges, on était bien content d'avoir de l'ombre pour se mettre dessous. Après, les noix aussi, ça faisait partie de l'alimentation, hein, longtemps, les noix. Hein.
Autre industrie, non, petite industrie dans la commune, les moulins. Les moulins à eau. Il n'y a aucun moulin avant dans la commune, il n'y avait que des moulins à eau. Parce que dans beaucoup de communes, le meunier était propriétaire d'un moulin à vent et d'un moulin à eau. Donc quand il faisait tourner l'un, il ne faisait pas tourner l'autre, etc. Et à Migné, non. On n'a aucun moulin à vent. Il n'y avait que des moulins à eau, mais il y en avait 13 quand même. Alors ils avaient trois activités, moudre les céréales, le blé en particulier, des moulins à foulon. Les moulins foulons, c'est-à-dire donc des moulins qui permettaient de battre en particulier les tissus pour les assouplir, et des moulins à papier. Ils ont trouvé une utilisation secondaire pour l'un qui se situe rue de Giroir, la production d'électricité en 1923. Donc ils avaient installé une bobine donc qui permettait. On a eu de l'électricité relativement tôt, donc 1923, on a commencé à avoir de l'électricité dans la commune. Et puis un autre, bah, c'est celui qui est juste en face, là, qui est le moulin du cimetière, ici, qui a été utilisé par une brasserie pour y produire une bière, qui s'appelait la bière de Montmorillon, qui est renaît de ses cendres depuis quelques années, puisqu'il se produit à nouveau une bière de Montmorillon. Donc, et elle était, donc, en particulier, les produits étaient brassés, en particulier dans ce moulin. Mais on a été une des communes de précurseurs, si vous voulez, de la production d'électricité. On a retrouvé, il y a une personne qui m'a demandé il y a à peu près 2 mois ce que signifiait le terme de la loge. Vous connaissez peut-être, là, donc entre Poitiers et Migné, il y a cette zone commerciale s'appelle la zone de la loge. Et cette personne demandait s'il y avait une relation avec les loges maçonniques. Non, pas du tout. En fait, donc j'ai recherché et j'ai retrouvé le mot loge a donné le mot logis. Hein. Et une loge, c'était en fait une maison de campagne. Hein. Et donc Poitiers, Migné était considéré donc comme un petit village de villégiature. Donc les riches propriétaires poitevins venaient construire ou acheter une propriété dans Migné, ce qui explique par exemple le château de Malaguet, qui est un des châteaux qui de la commune. On pourra en parler plus longuement de tous les châteaux. Le château de Malaguet, c'était là aussi une propriété de riches commerçants poitevins qui achetaient des propriétés autour de la commune, en particulier suite aux épisodes de peste. Puisqu'il y a eu plusieurs épisodes de peste dans Poitiers. Et les gens, ben, lorsqu'il apparaissait ce phénomène, ben, tous les gens nantis s'éloignaient de la ville, donc s'éloignaient des miasmes de la contagion, en allant habiter dans des maisons situées à la campagne.
Mini-Ausance était donc une zone de production agricole, de vin, de céréales, qui fonctionnait de façon relativement autonome par rapport à Poitiers. Cette histoire, d'avoir été un village agricole, un lieu de villégiature, disposant d'une importante carrière, marque encore aujourd'hui le territoire.
Le site ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu l'extraction de la pierre.
Anne Maury, présidente de l'ADEMA, nous parle du site des Lourdines.
Donc ce site, il est le fruit de l'intervention humaine, d'une part pour extraire les pierres, et d'autre part ensuite pour utiliser ce site qui est un site de lande et avec une végétation très pauvre pour des pâturages. Et il est en danger actuellement parce qu'il est en train de se reboiser. Comme disent les géographes, il se referme. C'est-à-dire que bon, il pousse d'abord des herbes, puis des arbustes, puis des arbres, etc. Et que si on ne fait rien, il retournera à l'état sauvage, c'est-à-dire à la forêt, d'ici une vingtaine, trentaine d'années.
Et ce sera un problème ?
C'est un problème, oui, parce qu'il y a dessus, par exemple, ce qu'on appelle des pelouses calcaires, des pelouses sèches calcaires, qui sont des biotopes tout à fait particuliers, avec une faune et une flore très particulières. Et donc, si ces pelouses disparaissent, parce qu'elles deviennent des bosquets, on aura complètement autre chose. Les pelouses calcaires, ben, ce sont des pelouses rares qui poussent sur un substrat extrêmement pauvre, hein, et qui est fait aussi beaucoup de poussière de carrière, justement, hein, et qui est constitué par justement des plantes et des papillons, entre autres, qui sont particuliers à ce biotope. Hein.
En plus du site des Lourdines, on trouve dans le patrimoine local plusieurs sites riches en histoire qui sont aussi des lieux précieux en termes de biodiversité. Parmi eux, on trouve le domaine de Malaguet. Anaïs Fouilleul anime l'association des ateliers de Lausance, basée à Malaguet. Elle y fait pâturer ses chevaux. Elle nous présente le site.
Après, bah là on le voit, la bâtisse là-bas c'est un moulin. Ah. Et sur Meignet, il y a énormément de moulins. Déjà là, il y en a un, deux, il y en a un derrière la mairie, trois... un derrière le tabac de ce mur 4, il doit encore en avoir d'autres. Donc okay. C'était quand même ouais. Une ressource. Ça l'est toujours, mais il n'y a plus de moulin en activité. Après, là-bas, on voit le château qui date du 16e siècle, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a les vestiges qui sont du 13 ou 14e siècle. Le portail qu'on a là-bas et l'ancienne ferme. Ça a été un internat, des grandes familles sont venues aussi ici, dont Camille de Marsay, qui a été maire de Meignet, qui a du coup offert l'école, Camille de Marsay, qui est de l'autre côté, parce que c'était un républicain qui était vraiment, c'était que pour les garçons hein, à l'époque, mais c'était l'école publique, il a du coup donné l'école. Et il y a son fils qui est enterré sous le chêne, qui est juste là. Et vu que c'était un... Maintenant, il pourrait faire un décor de cinéma, de film d'horreur, mais... donc il n'est pas du tout restauré, hein. Puis il a été vandalisé. Mais il y a tout le parc, en fait, tout l'arboretum qui est vraiment magnifique. On se retrouve avec des essences, avec des arbres qui ont plus de 300 ans. Cèdres de Liban, des séquoias géants, des tulipiers, des liquidambars. Donc c'est un plaisir aussi, quand on est là au quotidien, on voit le parc en fait et les essences qui se réveillent. Et puis voilà, en printemps, été, automne, on peut faire des visites et faire découvrir tout ce parc magnifique.
Une étude est en cours sur le domaine de Malaguet et sur la biodiversité qu'on y trouve. Hélène Royer, doctorante à l'université de Poitiers, en charge de cette étude.
Pourquoi le domaine de Malaguet ? Donc il y a effectivement le fait que il y a des pâturages sur place, mais c'est aussi un espace presque naturel, je pourrais dire, à proximité. Donc c'est un domaine qui va être qui est placé un petit peu en dehors de la ville, mais qui va avoir aussi un paysage, donc des milieux environnants qui sont aussi intéressants pour la biodiversité. Parce que là, j'ai eu des précisions d'Anaïs et de Bertrand. Donc, leurs pâturages, en fait, sont situés sur des zones humides qui sont partiellement protégées. Donc, il y a certains endroits qui sont protégés. Et il y a également il y a la proximité de Lausance, qui va peut être intéressante. Il y a aussi la présence de pas mal de milieux boisés. Il y a des petits bosquets, des arbres qui sont le long de l'eau. La biodiversité, en quoi c'est important? C'est la base de notre vie. Il y a juste à regarder autour de nous pour se rendre compte que tout ce qu'on a ou presque vient de du naturel, notre alimentation, nos vêtements, nos maisons. C'est vraiment partie de notre quotidien, et sans ça, en fait, on ne peut pas vivre, quoi. C'est l'air qu'on respire, vient de quelque part, les minéraux qu'on absorbe viennent de quelque part. Et c'est plus de cet aspect-là, en tout cas. Après, en termes de services écosystémiques, à proprement parler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment se nourrir, se vêtir, c'est pouvoir continuer de se nourrir, justement, comme je disais avec tout ce qui est gestion des ravageurs, c'est pouvoir prendre l'air, se promener, se rafraîchir l'esprit. S'attacher à un lieu, c'est de la culture aussi. Mais globalement, on observe un déclin. Il y a une augmentation de l'urbanisation qui va faire disparaître des écosystèmes prairiaux, qui va faire disparaître des écosystèmes agricoles. Donc globalement, il y a quand même un déclin. Il y a aussi ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. Les espèces vont être, ne vont plus être capables d'évoluer d'un milieu proche à un autre, parce qu'il va y avoir des infrastructures routières ou des habitations un parking, peu importe. Et ça, c'est très problématique pour les espèces, de ne plus pouvoir se déplacer, de ne plus pouvoir s'installer quelque part.
Pour finir, l'environnement de Migné-Auzans se caractérise par la présence de la rivière Auzans, à qui la commune doit son nom. Élément structurant de l'identité du territoire aujourd'hui, la rivière était par le passé une ressource précieuse pour les déplacements et pour la production d'énergie grâce aux moulins. Aujourd'hui, ses abords sont des espaces riches en biodiversité et constituent une zone humide précieuse dont dépend directement notre capacité à avoir de l'eau potable.
On a longtemps pensé que Migné-Auzans venait du fait que, comme vous le voyez sur la photo, il y a des anses, ça n'a rien à voir en fait.
Jean-Luc Carré.
C'est une déformation du mot alisier. Donc c'était la rivière aux alisiers en fait, qui était donc une plante qui ressemble à un arbuste qui ressemble un petit peu au noisetier. Et on mangeait d'ailleurs les alises. Et donc Auzans vient de cette déformation du mot lisier. Et vous voyez que le village s'est construit, on le voit même encore sur cette photo aérienne, on voit que le village de Migné était donc inscrit dans sur les bords de la rivière Auzans.
La rivière, elle avait à plusieurs stades de l'année, a changé.
Patrice Abonneau.
Dans la rivière, il y avait une certaine végétation c'est comme pour les animaux terrestres, hein. il y avait des poissons, il y avait une multitude de poissons. Et le long de cette rivière, à Migné-Auzans, il y avait deux rivières en fait. Il y avait l'Auzans et ces canaux qui alimentaient des moulins dans lesquels on faisait de la farine. Moi, j'ai connu ça, et autour de ces moulins, donc quand on produit de la farine, il y a toujours des déchets et tout ça, c'était des poissons, il y en avait des milliers, c'était des nuages d'alevins et tout ça. Et ça, c'était la source d'alimentation après de d'autres poissons, les truites, les brochets et tout ça. La rivière était magnifique avec ses caresses, avec ses roseaux, moi je connais pas trop les plantes qu'il y a dans la rivière. Et la rivière, elle était entretenu par les riverains. Bon, il y avait des endroits qui n'étaient peut-être pas bien entretenus, mais tout le monde entretenait ça. Parce que l'Auzans, en fait, bon, il y a l'eau, puis après il y a des barrages. Les barrages font que le niveau de l'eau augmente. Donc là, il y avait moyen de circuler. Mais après, il y avait toujours des obstacles, hein, à certains endroits. Après, la marche, il faut la passer avec des rondins pour aller au supérieur.
Et
Mais bon, il y avait des bateaux partout. Enfin, le long des jardins et tout ça, presque. Il y avait beaucoup de gens qui avaient leurs bateaux.
Pour défendre quelque chose, il faut le connaître.
Geneviève Debillet, ancienne adjointe à l'environnement de Migné et ancienne présidente de l'ADEMA. Elle nous parle de son travail de valorisation de la rivière.
Alors le platelage, ben, ça a été un dossier qui a duré 2 ans. Et c'était dans le but de protéger les zones humides. Surtout que du temps où j'étais à l'ADEMA et à la fin, on savait que certaines personnes seraient heureuses d'en faire un trou, d'en faire des étangs. Des étangs pour la pêche. C'est un circuit sur pilotis en bois qui traverse donc là. Ça pourrait traverser une autre zone ou un autre sol. Là, bon, bah, c'était l'idéal pour une zone humide.
Et ces zones humides-là, en fait, par exemple, elles jouent un rôle dans l'épuration des eaux, en fait.
Fabien Blaise.
C'est autant de stations d'épuration en moins, la préservation des zones humides, puisque en fait elles viennent capter en fait les nutriments qui viennent du versant pour pouvoir que les plantes se développent et filtrer en fait ce qui arrive à la rivière ensuite. Donc en fait ces espaces là c'est au-delà d'être des trésors de biodiversité puisqu'on est à l'interface entre l'eau et la terre, c'est là où on a une richesse la plus importante en fait hein, en matière de biodiversité, que ce soit de la biodiversité animale ou végétale d'ailleurs. C'est aussi des fonctions qui sont rendues à la collectivité en matière de traitement des eaux, comme je l'indiquais en fait, par rapport à la captation des nutriments qui viennent du bassin versant d'ailleurs. Et c'est aussi des espaces de régulation en fait de la quantité d'eau. C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle de tampon, d'éponge. Elles se gorgent d'eau l'hiver, puisque la rivière déborde dans ces espaces-là. C'est aussi d'ailleurs le support de ponte pour certaines espèces de poissons, comme le brochet. Et elles viennent se gorger d'eau, elles viennent se gonfler en fait, et elles viennent restituer en fait ces eaux en période estivale, quand les débits sont les plus bas. En ce qui concerne le bassin de la Vienne, c'est un bassin qui fait 21 000 km². La Vienne, elle prend sa source en Corrèze, hein, sur le plateau de Millevaches. Hein. Et puis elle chemine à travers plusieurs départements, elle passe par Châtellerault et puis elle se jette dans la Loire. Pour ce qui concerne plus particulièrement Migné-Auzance, on est sur le bassin du Clain qui lui-même est sous-divisé en plusieurs bassins versants. Et là ici on est sur le bassin versant de l'Auzance, dont la source de l'Auzance est en Deux-Sèvres. Et elle a un axe ouest-est pour se jeter dans le Clain. Sur Chasseneuil du Poitou. En fait, le problème du réchauffement climatique, c'est qu'aujourd'hui, ça joue sur la disponibilité de la ressource en eau. Et en fait, on voit que déjà sur les dernières décennies, on a une baisse des débits moyens annuels à l'étiage.
Qu'est-ce que c'est à l'étiage ?
À l'étiage, c'est en période de basse eau. C'est l'inverse, c'est les crues. On a les crues en période de c'est les hautes eaux, l'étiage, c'est les périodes de basse eau. Et donc on observe en fait dans les chroniques de mesures qu'on a des débits qui baissent régulièrement et les projections climatiques, des recherches en fait, hein, des modèles qui sont établis aujourd'hui, on estime qu'à peu près on aura 25% des débits de ces débits-là qui seront en moins, donc en période de basse eau. Donc du coup, ça implique derrière qu'il y aura forcément moins d'eau et qu'il faudra s'adapter en fait, que la société devra s'adapter avec ça. Quoi. Enfin, factuellement, objectivement, la rivière elle traverse le centre-bourg, elle connecte différents espaces. On peut aller jusqu'aux falaises de Beauvoir, voir au-delà. Après, on peut rattraper Vouneuil-sous-Biard. Moi, je fais pas mal de VTT. Et du coup, même avec mes enfants, avec ma compagne, On aime bien prendre ces itinéraires-là et donc on chemine finalement tous ces itinéraires, ils sont en lien avec la rivière, avec les zones humides associées finalement. Donc peut-être que effectivement les gens ils sont sensibles parce que justement il y a tous ces itinéraires là qui sont aménagés, que l'eau elle coule au cœur de la ville et finalement il y a un lien d'attachement quoi, avec cette rivière quelque part quoi. Il va falloir s'adapter à la question du réchauffement climatique. Il va falloir trouver des solutions, des modes de consommation différents, pour anticiper en fait ces évolutions finalement.
Page blanche à Mini-Ausance, un épisode réalisé par Alexia Beaujeu et Solène Cordonnier dans le cadre du projet des résidences pour la résilience, une série signée La Traverse. Les liens et informations relatives à ce projet sont disponibles en description de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, discuter, échanger, n'hésitez pas à nous écrire. Merci à Florence Jardin, maire de Mini-Ausance, Sébastien Léonard, adjoint à l'environnement, Daniel Join, adjoint à l'urbanisme, Anne Maury, présidente de l'ADEMA, Fabien Blaise, chargé de mission à l'établissement public territorial du bassin de la Vienne, Frédéric Rousseau, habitante, Thomas Honoré, responsable du plan climat air énergie du Grand Poitiers, Monsieur Petit, habitant de l'Ambre, Jean-Luc Carré, président de Mini-Ausance Mémoire, Patrice Abonneau, présidente de l'association de chasse de Mini-Ausance, Geneviève Debillet, ancienne adjointe à l'environnement de Mini-Ausance et ancienne présidente de l'ADEMA. Dans le prochain épisode dédié à Mini-Ausance, nous aborderons les thèmes de la mobilité, de l'agriculture, de la convivialité, de l'énergie, de la vitalité économique et commerciale et de la préservation de l'environnement. Nous verrons de façon plus détaillée les enjeux que posent chacun de ces thèmes et les choses à inventer pour rendre la commune plus durable. On vous retrouve donc très bientôt et d'ici là, portez-vous bien !